Ici les sorties, c'est votre rendez-vous du dimanche matin. On partage nos envies de littérature, d'humour, de musique aujourd'hui avec un invité dont la vie et la voix nous sont si familières et je vous le présente dans un instant. Mais voici d'abord les journalistes qui nous accompagnent pour ce 2 avril. Thierry Geffrotin, Diane Chénouda, Nicolas Caro. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Wendy.
Bonjour à tous.
Thierry, c'est un coffret musical qui nous fait voyager ce matin.
Oui, une anthologie de Francis Lay, les musiques de films du grand compositeur Francis Lay. 7 disques. Alors c'est pas la première anthologie, mais celle-ci est très intéressante. Et je vous dirai pourquoi.
Notamment Compagnon de route de Claude Lelouch. Diane, vous avez vu un spectacle cette semaine qui vous a bien plu.
Exactement, j'ai été voir le dernier spectacle de Stéphane Guillon, certifié conforme. Il revient seul sur scène après 4 ans d'absence. Il pensait n'avoir rien à dire pendant ces 4 ans, évidemment. Il n'en est rien. En ce moment, donc, il joue au Théâtre de Jazé à Paris jusqu'au 30 avril, avant de repartir en tournée partout en France, également en Belgique et en Suisse.
Une invitation au voyage ce matin, Nicolas Caro.
Un voyage un peu particulier dans un pays peu connu, l'Autistan, le pays des autistes, avec Joseph Chovanec, qui est lui-même autiste Asperger.
C'est votre coup de cœur ce matin. Le voyage encore, au cœur de notre invité. Avec lui, ses 50 ans de chansons, le métissage des musiques, des cultures que nous visitons. Il a suivi des chemins au rythme des errants, c'est ce qu'il chante. De Constantine à Jérusalem, de Paris tu m'as pris dans tes bras, aux gens du Nord, du petit Gaston d'Algérie à l'Enrico, inspiré de ses copains gitans, une voix amie avec nous ce matin.
Ami, ressens-tu dans le vent les beaux jours sur la Seine? Les mouettes sur leurs airs indolents ne sont pas à la traîne. Dis-moi, chanteras-tu cette chanson qui veut qu'on la retienne?
Bonjour et bienvenue sur Europe 1, Enrico Macias.
Bonjour, je suis très content d'être parmi vous.
Bah merci beaucoup, elle est très belle cette chanson, il est très beau cet album. Cette chanson d'abord intitulée Ami, cet extrait de cet album clé dont on va parler. C'est un titre et un mot qui me fait réagir parce qu'en regardant votre répertoire, je lis que le mot ami, il revient tellement souvent. Pour quelle raison?
L'amitié, c'est une religion pour moi. C'est ce qui m'a permis d'écrire des chansons comme Enfant de tout pays et tout ça, parce que je souhaite que l'humanité entière soit amie et soit fraternelle.
Vous n'avez jamais été déçu en amitié?
Oui, j'ai été déçu, mais ça n'enlève pas mon optimisme et mon idéal.
On est tous très heureux de vous recevoir ce matin autour de cette table parce que vos chansons, elles battent un peu dans chacun de nos cœurs. Il y a toujours beaucoup de vie, beaucoup de joie, beaucoup de mélancolie, ce savant mélange dans vos chansons qu'on pense par exemple à ce petit bijou.
Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil. Qui n'ont pas dehors.
Ou celle-ci, issue de votre nouvel album.
Chaque nuit, les paupières closes, je retourne dans le jardin, contre le mur de ma maison.
Ce mélange, cette alchimie, c'est ça la culture judéo-arabo-andalouse de vos racines, Enrico?
C'est bien, parce que c'est impropre de dire musique arabo-andalouse, parce qu'il y a judéo, il y a berbère. Aussi, ce sont toutes mes racines.
C'est un mélange que vous cultivez et je signale aussi à nos auditeurs que vous avez publié il y a quelques semaines L'envers du ciel bleu, c'est au Cherche Midi. Et c'est un livre que j'ai lu ce week-end avec beaucoup de plaisir parce qu'on vous découvre, on vous redécouvre et surtout on découvre que vous avez peut-être été un peu l'objet d'une méprise. Vous qu'on a considéré comme un chanteur populaire, très bien, mais vous vous revendiquez davantage comme chanteur ethnique et vous expliquez surtout la souffrance dont vous êtes issu et le chemin que vous avez parcouru et cette personnalité qui vous a façonné, qui est si unique.
C'est vrai parce que je ne suis pas ce que les gens croient depuis 50 ans. Je suis ça, mais il y a une face cachée.
Oui, on vous arrête un peu à voilà, aux choses un peu très sautantes.
Mais je les assume aussi, et tout ça, parce que vous allez dans la rue, vous demandez à un jeune de 15 ans, 16 ans, qui vous aimez, si vous aimez Enrico Macias, quelle est la chanson que vous aimez? Il va vous dire, c'est « Laï, 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 les filles de mon pays » et tout ça. Et ben moi, je suis fier de ça. Mais je suis fier aussi de dire qu'il y a des choses aussi bien plus profondes à cause de mes souffrances, à cause aussi de mes peines.
On vous sent à l'écoute, Thierry Geffrotin, d'Enrico, qui est aussi familier pour vous, pour votre sensibilité.
Ah oui, quand j'ai vu Enrico là, entrer dans le studio il y a quelques minutes, j'ai été lui raconter l'histoire de mon enfance. Moi, je suis normand, mais en 1962, j'ai accueilli avec mes parents, oui. Les Normands ont accueilli les Pieds Noirs. Et l'un de mes grands amis d'enfance était algérois. Et Enrico Macias, d'une certaine manière, a accompagné mon enfance parce que toute cette famille écoutait évidemment Enrico Macias. C'était un peu de l'Algérie qu'ils avaient ramené avec eux à travers ses chansons.
Ça me fait plaisir parce que, et heureusement qu'il y avait des gens comme notre ami qui nous ont reçus vraiment avec beaucoup de cœur.
Heureusement, il y a cette musique, cette réconciliation, cette guitare en bandoulière dont vous dites qu'elle est quasiment une seconde nature. Et puisque je regardais vos mains qui sont fines et que vous travaillez chaque jour avec virtuosité sur cette guitare, écoutez juste. C'est quelque chose, la virtuosité, ça vous touche, Nicolas Caro?
Oui, moi j'adore la guitare et tout le monde vous connaît évidemment comme chanteur. On oublie souvent que vous êtes aussi un grand guitariste, mais est-ce que vous êtes un collectionneur? Est-ce que vous êtes un amoureux de l'objet guitare?
Ah ben, mais j'adore les instruments, bien sûr. Mais pas que les guitares. J'aime collectionner les violons parce que mon père était un grand violoniste.
Votre papa, il jouait du violon en posant l'instrument debout sur sa jambe.
Oui, à la façon orientale. Ah, oui. Mais mon père a quand même débuté en jouant du classique. Il connaissait le solfège mieux que moi-même.
C'est très émouvant pour moi de vous entendre ici, Enrico, parce que vraiment, vous parlez comme les gens de la Méditerranée. Moi, mon père est d'origine égyptienne et vraiment, vous avez cette intonation, cette voix très chaude. Pour moi, vous êtes cher à mon cœur parce que c'est le soleil quand même.
Le soleil de nos pays.
qui nous berce depuis notre enfance.
Absolument. Mais tenez, Diane, gardez la parole parce que vous êtes allé voir ce spectacle de Stéphane Guillon cette semaine. Alors, on connaît son humour assez acéré,
oui, caustique,
son autodérision.
Absolument.
Réussie ?
Absolument, autodérision. Et puis alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie politique. Stéphane Guillon, on sait qu'il excelle dans la satire politique, et là encore, c'est le cas. Quand il brocarde Hollande, cette fois-ci, Valls, qu'il imite d'ailleurs à merveille. Hein. Le spectacle commence avec les images de la victoire de François Hollande en 2012, car Stéphane Guillon, eh bien, figurez-vous, jouait sur la scène de l'Olympia ce soir-là, et on le voit distribuer des roses à ses fans. Alors, il n'a jamais caché, évidemment, on sait que c'est un peu l'homme de gauche qui pensait n'avoir rien à dire sous la présidence Hollande. Évidemment, il n'en est rien. On l'écoute.
C'est vrai qu'un président qui nous avait promis la normalité, pour nous les humoristes, la normalité c'était l'ennui, quoi. Donc on s'est dit, ça va faire comme les Américains qui sont passés de George Bush à Obama. Et puis, Hollande nous a hyper gâtés, c'est-à-dire qu'il y a effectivement matière à rire.
Alors il y a une séquence jubilatoire, hein, vraiment, c'est le sketch des Hollandais anonymes. On voit Stéphane Guillon animer un groupe de gens de gauche complètement désespérés, complètement paumés.
Le sketch sur les Hollandais anonymes, ça, il n'y a pas besoin de le réécrire. C'est quelque chose qui parle aux gens, je veux dire. Les gens de gauche ont toujours tous eu des pulsions de droite, donc ils se reconnaissent. C'est pour ça que le rire est immédiat.
Ah, ça vous plaît cette analyse politique, Enrico, là, par le rire, toujours?
C'est drôle, c'est drôle. Et moi, j'adore Stéphane Guillon parce que c'est un humoriste exceptionnel, un imitateur hors pair.
Absolument. Ça, c'est la cerise sur le gâteau du spectacle. Vous avez raison.
Une imitation.
Oui, parce que, ouais, absolument. On croit que le spectacle est fini, mais non, il nous en redonne encore plus avec ses imitations. Il est vraiment excellent en Fabrice Luchini. Excellentissime. Mmh. Il est très juste aussi quand il fait Guy Bedos. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression de voir Bedos devant nous. Il imite Sarkozy à merveille, je dois dire. Il y a une partie revue de presse qui est aussi très, très bonne. Là encore, les ministres du gouvernement font les frais de son humour caustique. Il y a une séquence aussi, il imagine Nicolas Sarkozy en maison de retraite avec le FN au pouvoir. Alors, ça, c'est assez irrésistible, on rit jaune.
La politique fiction,
oui. Oui, c'est la politique fiction.
Ça fait rire Enrico.
Voilà. Il est quand même un peu plus attendu sur le terrorisme, les attentats, même s'il y a quelques bonnes saillies quand même.
Certifié conforme de Stéphane Guillon, c'est certifié rire
absolu. Ah oui, on rit. Il y a quelques parties qui sont un peu plus ventre mou, on va dire, du spectacle. Moi, par exemple, quand il aborde la fin de vie avec Vincent Lambert, franchement, je pense qu'il aurait pu s'en passer. Il y a des parties mais vraiment, tout ce qui est politique, c'est excellent, excellentissime, les imitations sont formidables.
Oui.
Il est très très bon.
Il est caustique, mais il est très tolérant. Moi, je le connais très très bien. On n'a pas les mêmes idées.
Non.
Il y a des humoristes qui m'en ont voulu parce que j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Et il m'en a jamais voulu de mes engagements politiques.
Mais non, parce qu'il est fin, intelligent, il est voilà, il est.
Voilà,
c'est
ouais.
Ça. Non, mais c'est vrai.
C'est les passerelles, c'est même... et ce sont les ponts que nous montons, voilà, entre chaque univers. C'est une question difficile que je vais vous poser pour réagir à la chronique de Diane. Si vous deviez vous caricaturer, Enrico, quel trait de votre personnalité vous mettriez en avant, vous imiteriez?
C'est un petit peu mon côté trop généreux dans ma façon de parler, peut-être, ou je devais m'imiter, mais. Je t'ai téléphoné, mais un milliard de fois.
Un tontinet excessif, c'est ça.
On est bien à la Méditerranée, là.
C'est ça. Enrico Macias, moi, je voudrais juste qu'on fasse un petit pont avant le pont publicitaire sur l'avenir, parce que vous n'êtes pas du tout un homme du passé. Vous le dites dans vos chansons, vous l'écrivez dans votre livre aussi, L'envers du ciel bleu. On ne regarde pas en arrière, on ne cultive pas les regrets, on regarde en avant. Et si on regarde en avant, vous regardez aussi la nouvelle génération, et notamment celui-ci. C'est vrai, Enrico Macias, que vous considérez Kenji un peu comme votre fils dans la chanson?
Il y en a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup d'enfants,
oui.
Beaucoup, comme le Rai par exemple,
ouais, absolument.
Et puis maintenant Kenji, une sorte d'Enrico Macias, mais dont l'influence est plutôt gitane qu'arabo-andalouse. C'est un artiste très populaire aussi.
Il a une énergie et une générosité, je crois, et c'est ce qui
aussi,
vous caractérise
aussi.
Évidemment. On fait une petite pause. Enrico Macias, notre invité dans Par ici les sorties. Le voyage en Autistan, coup de cœur de Nicolas Carreau dans un instant, et Francis Lay, revisité par Thierry Geffrotin sur Europe 1. À tout de suite.
Matinale d'Europe 1 à 8h40, retrouvez la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Oui, madame, le renouveau c'est Bruno et le rabougri c'est Sarkozy.
Nicolas Canteloup bouscule l'actualité avec ses imitations imparables.
La jeunesse a toujours été ma priorité. J'ai rompu avec Ségolène, j'ai dégagé ma vieille folle de Valoche et j'ai pris une belle et jeune comédienne. Donc, priorité à la jeunesse.
Du lundi au vendredi à 8h40, Nicolas Canteloup dans la matinale d'Europe 1, présenté par Thomas Soto.
Europe 1, un temps d'avance. Et si vous passiez vos nuits en apesanteur? Le matelas Tempur s'adapte parfaitement à votre corps pour un sommeil de rêve. Testez la différence et offrez-vous le meilleur du confort dès maintenant.
Jusqu'au 17 avril, c'est l'opération extra large chez Tempur. Toutes les dimensions, tous les conforts, un seul prix imbattable.
Des magasins qui vendent des fenêtres qui vous laissent sur le carreau, il y en a partout. Mais une enseigne qui vous propose des fenêtres en PVC fabriquées en France à 99€, conseil compris, il n'y en a pas deux.
Et oui, chez La Paire, jusqu'au 10 avril, vous profitez de 10€ de remise immédiate par tranche de 100€ d'achat sur tout le nouveau catalogue menuiserie.
10€ offerts par tranche de 100€ d'achat. La Paire, c'est clair, il n'y en a pas deux.
La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Magasin le plus proche et conditions sur lapaire.fr. Pendant ce temps chez Renault,
la French Touch se met au rugby et fait jouer ses packs. Regardez Clio, quel style! Elle fait jouer tout le pack. Easy Pack avec entretien, assistance garantie et sans apport. Oh, quel pack!
En ce moment chez Renault avec Easy Pack, Clio est à partir de 149€ par mois. French Touch, la touche française. Offre pack tout inclus pour Clio Life 1.2 16V75 réservé aux particuliers jusqu'au 31 mai. LLD 49 mois, 40 000 km max. C'est acceptation par Diac SA. Voir Renault.fr.
Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec notre invité Enrico Macias, les coups de cœur de Thierry Geffrotin, Diane Shinoda et Nicolas Carreau. 8h46, ne bougez pas.
Europe 1.
Ce matin, dans le journal du dimanche.
Des millions de factures impayées, la justice sinistrée en état d'urgence absolue. Dans le JDD, l'incroyable interview du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Exclusif, Manuel Valls, ses confidences après 2 ans à Matignon. Comment il voit 2017, son choix, ses conseils pour une candidature, François Hollande.
Le journal du dimanche, en kiosque et sur notre application iPad.
Depuis que vous avez votre Peugeot, vous avez déjà comptabilisé le nombre de fois où vous vous êtes arrêté, où vous avez freiné, stoppé? Dites, ça doit faire un chiffre avec plein de zéros derrière. Alors, pour être sûr de la fiabilité de vos freins et pour votre sécurité, arrêtez-vous. Chez Peugeot.
Chez Peugeot, pas de compromis entre la qualité et le prix. En ce moment, profitez de 25% de remise sur les disques et plaquettes de frein. Et en plus, le bilan freinage est offert. Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur apv.peugeot.fr.
Europe Weekend, Wendy Bouchard.
ABC les sorties jusqu'à 9h ce matin avec notre invité Enrico Macias, un homme dont on aime le sourire, les yeux mélancoliques, les vibratos de la guitare, la joie, la douleur aussi de la musique. Il y a toute cette ambivalence de l'histoire que vous retrouvez si bien dans cet album très délicat que vous avez fait avec votre fils Jean-Claude. Les clés, Enrico Macias, est dans ce livre « L'envers du ciel bleu » aux éditions du Cherche Midi. Il est avec nous en musique et évidemment. Enrico Macias, j'ai lu deux choses assez qui m'ont interpellé dans votre ouvrage. D'abord, vous dites « je suis plus un chanteur ethnique qu'un chanteur populaire ».
Oui, ethnique, bien sûr, parce que les gens de ma communauté sont déplacés dans le monde entier. Mmh. Et comme je suis un chanteur qui va chanter dans le monde entier, je retrouve ces gens-là qui sont aussi déplacés que moi. Mmh. Donc, je ne suis pas un chanteur international pour les gens du pays, je suis un chanteur ethnique pour ceux qui sont de chez moi et qui vivent dans les autres pays.
Et vous chantez en arabe aussi, et ça,
je chante
ça
en arabe et tout,
énormément, avec la sonorité qu'on aime et qui va avec le voyage. On sait qu'il est au cœur d'Enrico Macias. Il est aussi dans ce livre que vous mettez à l'honneur ce matin, Nicolas Carreau.
Oui, le livre de Joseph Chovanec. Les auditeurs d'Europe 1 le connaissent bien, puisqu'il assure une chronique chaque semaine dans les Carnets du Monde de Sophie Larmoyer. Ce sera tout à l'heure. Ce livre, donc, c'est Voyage en Autistan, et ça rassemble toutes ses interventions sur Europe 1. Alors, il a une petite particularité, Joseph, il est autiste, Asperger, et il a une autre particularité paradoxale, si on veut, c'est qu'il voyage en permanence partout dans le monde, dans les pays les plus faciles d'accès, comme dans les coins les plus reculés. Il force évidemment un peu sa nature, parce que avant il était incapable ne serait-ce que de prendre le bus à cause de son autisme, et du coup il rencontre plein de gens et il se met dans des situations complètement improbables, et puis ensuite il vient nous raconter ses aventures, et souvent ça donne des histoires extraordinaires. Il est brillant, Joseph, il est docteur en philosophie, diplômé de Sciences Po, il parle plusieurs langues,
exceptionnel.
Je ne sais même pas combien, par contre, son élocution est un peu étrange. Il a un débit lent, régulier. Et souvent, quand il rencontre des personnes, on lui demande d'où vient son accent. Mmh. Alors, plutôt que de dire qu'il est autiste, parce que ça peut être un peu pénible, il a trouvé une parade. Écoutez, c'est lui qui raconte.
Tout simplement, je prends mes précautions. Mmh. Lorsque je commence à parler en public, très souvent, je commence par quelques éléments sur la Suisse, le chocolat ou le couteau suisse, couteau militaire, comme on dit en Suisse. Et donc, tout de suite, la question de mon accent est résolue.
Voilà, il se fait passer pour un Suisse, tout simplement.
Mais il est adorable, il a beaucoup d'humour.
Mais alors, du coup, Joseph, quand il voyage en Suisse, qu'est-ce qui se passe?
Alors,
il se fait passer pour un Belge. C'est vrai. Comme ça, il est tranquille. Et dans le livre, donc, on trouve une centaine d'anecdotes sur ses voyages. Au Baloutchestan, par exemple, je n'avais jamais entendu parler de ce pays. C'est entre l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran. Ce n'est pas vraiment une destination de vacances. Mmh. Mais il y est allé parce que, dit-il, lorsque pour la première fois j'entendis l'expression « axe du mal » de la bouche d'un ancien président américain, je ressentis une forte envie de visiter cette partie du monde. Voilà. Il voyage partout, Joseph, à Addis Abeba, à Djibouti, en Iran, donc partout. Il est même parti chercher des fantômes dans les cimetières de Transylvanie. C'est le pays de Dracula, vous savez. Donc il est parti en pleine nuit dans un cimetière, comme ça, tout seul, avec juste son portable comme lampe de poche. Et il a rencontré une professeure d'histoire de l'art, spécialiste de la Transylvanie. Comme ça, c'est devenu son ami. Il se fait des amis partout dans le monde. En fait, c'est ça, c'est formidable. Et puis il les recroise ensuite. Il nous raconte dans le livre tout ça. Il a visité tous les métros du monde, et c'est comme aller au théâtre pour lui, finalement. Et du coup, il nous explique un peu les différents comportements en fonction des pays. Mmh. Par exemple, il nous dit qu'en Russie ou dans les pays arabes, au Moyen-Orient, selon Joseph, les gens adorent que le métro soit bondé, parce qu'ils aiment bien quand ça bouscule, quand il y a un peu de contact physique. Et à l'inverse, en Corée, à Taïwan ou Singapour, là, les gens utilisent un ordre géométrique hyper précis pour sortir et rentrer dans les rames. Tout ça pour éviter de toucher l'autre, en fait, ou de heurter l'autre.
Il fait de la sociologie internationale,
voilà,
il est génial, ce garçon.
C'est plein de trucs comme ça, c'est génial, ça fournit d'anecdotes, de situations, de découvertes aussi, bien sûr, parce qu'on fait le tour du monde.
Ça, c'est formidable.
C'est un phénomène.
Je vous le donne.
Les méandres du cerveau, c'est fabuleux.
C'est un peu ça, et il a su les mettre à profit, et vous l'avez bien raconté. Et c'est un garçon délicieux, curieux, polyglotte, passionné, enfin, chapeau. Voilà, c'est un bel exemple, et Nicolas Carreau vous offre ce livre, Enrico. Un petit mot avant de terminer en musique avec Thierry Giffrotin et Francis Lay. Les voyages permanents, les tournées, le Moyen-Orient, on connaît ça de votre vie, Enrico Macias. Y a un beau chapitre dans votre livre sur l'Alia, c'est-à-dire l'exil, le départ vers Israël. Vous nous expliquez que c'est presque l'étape finale de votre vie, que vous resterez français, profondément attaché à la France, votre pays, avec le passeport français, mais vous voulez vraiment terminer votre vie en Israël.
Vous savez, c'est l'idéal de chaque juif, pour des raisons mystiques et des raisons uniquement religieuses et pas du tout ni politiques ni rien du tout. C'est un refuge mystique.
Thierry Geffrotin, on va terminer avec vous en musique et cet hommage à Francis Lay, grand compositeur qui nous écoute peut-être ce matin.
Des hommages à Francis Lay, des coffrets comme celui-ci, voilà, c'est pas le premier. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci ? Eh bien c'est qu'on a pour chaque film l'intégralité de la bande originale. Ça c'est très intéressant parce qu'en général les anthologies, on prend le thème du générique ou le thème voilà, du héros et puis on passe à un autre film, etc. Là on voit ce que c'est que d'écrire une musique pour un film. Évidemment, dès qu'on dit Francis Lay, on pense à Claude Lelouch. Mmh. Alors, il y a quelques BO, bandes originales de films de Lelouch, et c'est ça la deuxième originalité de ce coffret qui vient de sortir chez FGL et qui s'appelle donc Francis Lay Anthologie, 7 CD. Hein. C'est qu'on n'a pas que Claude Lelouch. Alors, bon, on va quand même écouter un peu de Lelouch, parce qu'autrement, on va dire, oh mon Dieu, il a parlé de Francis Lay sans Lelouch. Alors, un peu de Lelouch, voilà.
On est sur le bateau voilà, avec Belmondo.
Exactement, Itinéraire d'un enfant gâté en 1988. L'aventure, c'est l'aventure, ça aussi c'est dans le coffret. Alors je vous ai dit, il n'y a pas que Lelouch. Vous avez David Hamilton, vous avez Jean-Claude Brialy, il a écrit une musique pour un film de Brialy. Mmh. Et puis vous avez aussi, alors pour lui c'était la consécration, René Clément. Il a écrit pour deux films de René Clément. Et le premier c'était en 1972, il n'y croyait pas quand on lui a dit qu'il allait écrire la musique d'un film de René Clément.
J'y croyais pas, je pensais que c'était un gag. Et il est venu avec sa femme, on a passé une soirée ici à écouter de la musique et je me suis aperçu que c'était un être merveilleux, d'une sensibilité incroyable et qui avait ses idées vraiment précises, il savait ce qu'il voulait.
Et ce premier film en 1972, c'est La course du lièvre à travers les champs. J'ai choisi cet extrait parce que souvent, il y a une marque de fabrique de tous les compositeurs. Et là, on se dit, mais qui a écrit ça ? Oui, ben c'est Francis Lay. Un autre réalisateur pour lequel Francis Lay a travaillé, c'est Henri Verneuil, dans Le corps de mon ennemi, en 1976. Alors là, on retrouve la touche, la patte, la signature de Francis Lay.
L'œuvre de Francis Lay, c'est que pour moi, il fait partie des compositeurs pas seulement de films, de musique de films, mais de la musique classique.
Ah mais oui, oui, absolument.
Parce que le premier extrait qu'on a entendu, c'était vraiment carrément de la musique classique.
Alors, c'est sa griffe. Hein.
Alors une dernière chose, pour parler de Francis Lay, je vais vous citer Stéphane Lerouge qui a écrit le texte, grand spécialiste de musique de film. Que ce soit à propos de l'homme ou de sa musique, les mêmes mots reviennent sans cesse dans la bouche de ses amis et collaborateurs. Simplicité, discrétion, chaleur. Et je peux vous dire que c'est vrai. C'est un homme charmant, discret, sensible. Et ça se sent dans sa musique, évidemment.
Il est formidable. Alors il a travaillé sur le dernier Lelouch, donc il est encore en pleine forme, quoi, 83 ans.
Oui, oui, dans ces eaux-là.
La réconciliation, vous la chantez toujours, l'espérance de la paix aussi en Israël, si vous y alliez, ce sera votre point d'ancrage.
Bien sûr. Le jour où j'irai en Israël plus longtemps, j'irai pas seulement en Israël, j'irai en Palestine aussi. Je pense que c'est le moment de faire un grand pas pour que la Palestine ait un pays et que, à mon avis, ce jour-là, ça amènera la paix dans toute cette région du monde.
Et aussi dans les petites têtes des enfants qui sont les porteurs d'espoir. Et la musique aussi amène à ça. Enrico, on va se quitter avec un des titres de votre album « Les clés », enregistré avec votre fils Jean-Claude, qui est vraiment un album très délicat. Ça s'appelle « Venez ». Merci d'être venu, Enrico Macias, ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Vous êtes adorable. Et j'ai passé un moment formidable avec vous. Et j'ai découvert des choses fantastiques avec l'autiste, avec la musique de Francis Lay. Et puis
Stéphane
Guillon. Puis la douceur de votre voix et votre gentillesse et le cœur que vous y mettez.
Ça me touche infiniment. Merci beaucoup, Enrico Macias. Venez, c'est pour vous.
Venez, et je vais vous enchanter, vous raconter mes étés chez moi à Tipaza. Je vais vous emmener vers ma Méditerranée, plongée dans ses yeux bleus.
C'était Enrico Macias au cœur de Paris, il est sorti sur Europe 1. Merci et à tout de suite.